vous tous, c'est Doé et je vous raconte comme chaque semaine des histoires. Depuis quelques semaines, eh bien, nous voilà partis à l'est de l'Europe pour des contes slaves et aujourd'hui eh bien deux contes polonais. Nous allons commencer par l'esprit du mort. Oh, tout ça est bien gay. Un pauvre clerc se rendant à la ville rencontra sous les murs près de la porte le corps d'un homme qu'on avait négligé d'enterrer. Il n'avait pas grand-chose dans sa bourse, mais il le donna volontiers pour qu'on l'enterrât et qu'il pût échapper aux insultes des passants. Il dit des prières sur la tombe récente et continua ensuite de voyager par le monde. Le sommeil le saisit dans un bois de chêne, il s'endormit. Quand il se réveilla, il vit avec étonnement que sa poche était remplie d'or. Il remercia la main inconnue à laquelle il devait ce bienfait et arriva auprès d'une grande rivière qu'il lui fallut traverser en barque. Les passeurs, ayant vu son or, le prirent dans leur barque et au beau milieu du courant le jetèrent à l'eau après l'avoir dépouillé. Tandis que le flot l'emportait évanoui, il saisit par hasard une planche qui le soutint et lui permit d'aborder heureusement au rivage. Ce n'était pas une planche, c'était l'esprit du mort qui l'avait enseveli. Il lui parla en ces termes. « Tu as honoré mes restes, je veux t'en témoigner ma reconnaissance. Je veux t'apprendre comment on peut se transformer en corneille, en lièvre et en chevreuil. » Le clerc se remit en voyage, il finit par arriver à la cour d'un puissant roi qui l'accepta parmi ses archers. Ce roi avait une fille fort belle. Elle demeurait dans un château de bronze au milieu d'une île et possédait une épée de telle force que celui qui la possédait pouvait vaincre les armées les plus considérables. Mais comment avoir cette épée? Personne n'avait encore pu pénétrer dans l'île solitaire. Précisément à ce moment, les ennemis attaquaient les frontières de notre roi. Il avait grand besoin de l'épée victorieuse, mais comment l'obtenir? Il fit annoncer partout que celui qui apporterait l'épée victorieuse obtiendrait la main de sa fille et serait l'héritier présomptif du royaume. Personne n'osait se présenter. L'étudiant l'osa cependant. Il alla trouver le roi, lui demanda une lettre pour la princesse afin qu'elle lui livrât l'arme redoutable. Tout le monde s'étonna, le roi remit la lettre demandée. L'archer prit son chemin à travers une forêt, ignorant tout à fait qu'un autre archer suivait ses traces. Pour aller plus vite, il se changea successivement en lièvre et en chevreuil et arriva sans perdre de temps au bord de la mer. Alors il se changea en corbeau, traversa les flots à tire-d'aile et ne se reposa que lorsqu'il fut arrivé dans l'île. Il entra dans le château de bronze et donna à la princesse la lettre de son père et la pria de lui remettre l'épée victorieuse. La belle princesse regarde curieusement le jeune archer. Du premier coup, il a conquis son cœur. Elle lui demande avec intérêt comment il a pu pénétrer dans ce château qui, entouré d'eau de tous côtés, n'a pas vu d'homme depuis tant d'années. L'archer lui apprend alors qu'il connaît des formules mystérieuses grâce auxquelles il peut se changer en chevreuil, en lièvre et en corneille. Elle lui demande alors de se changer sous ses yeux en chevreuil. Sitôt dit, sitôt fait, le joli chevreuil gambade et caresse la princesse. Elle, pendant ce temps-là, lui arrachait sans qu'il s'en aperçût une touffe de poils sur le dos. Ensuite, il se changea en corneille noire et se mit à voleter par la chambre. La princesse lui arracha sans qu'il s'en aperçoive quelques plumes de ses ailes. Quand il se fut changé en lièvre, elle arracha également une touffe de ses poils. Ensuite, elle écrivit une lettre à son père et remit l'épée au messager. Il retraversa la mer en corneille, courut en chevreuil jusqu'à la forêt et traversa la forêt en lièvre. L'autre archer était resté dans la forêt pour les pieds. Il vit le moment où il se changeait en lièvre. Il tendit son arc mit une flèche et le tua. Il lui enleva la lettre et l'épée. Arrivé au château, il les remit au roi. En même temps, il demanda la récompense promise. Le roi, transporté de joie, lui accorde aussitôt la main de sa fille, saute à cheval et part en guerre contre les ennemis. À peine a-t-il aperçu leurs étendards qu'il brandit l'épée aux quatre vents. À chaque mouvement, les rangs ennemis tombent. L'arrière-garde, prise de terreur, s'enfuit au galop. Le prince revient joyeux avec un butin considérable et il fait venir sa fille pour la donner en mariage à celui qui a apporté l'épée. Déjà, on prépare la noce. Les musiciens jouent, le château brille de mille lumières. Seule la princesse est triste. L'archer qu'on lui destine n'est pas celui qu'elle a vu dans le château, mais elle n'ose pas demander à son père ce qu'il est devenu. Elle pleure en cachette et son cœur est bien agité. Cependant, le pauvre clerc tué dans sa peau de lièvre était resté sous un chêne de la forêt. Tout à coup, il est réveillé de son sommeil de mort. Devant lui se dresse un esprit, celui de l'homme dont il a enseveli les restes. L'esprit lui rappelle ses aventures, le rend à la vie et lui dit « Demain ont lieu les noces de la princesse, cours au château le plus vite possible, elle te reconnaîtra bien, ainsi que l'archer qui t'a tué traîtreusement. » Le jeune homme s'élance, il entre dans le cœur tremblant d'effroi dans la grande salle où les convives sont déjà réunis. La princesse crie de joie et s'évanouit, le meurtrier pâlit de terreur. Alors le jeune homme raconte l'infâme trahison de son camarade et pour justifier son récit, il se change en chevreuil et vient caresser la princesse. Elle lui remet sur le dos la touffe de poils qu'elle lui a naguère arrachée. Cette touffe s'adapte et repousse aussitôt. Il se change en lièvre et les poils s'adaptent et repoussent de même. Tout le monde s'étonne. Tout à coup, il se transforme en corneille. La princesse lui adapte les plumes qui repoussent encore. Le roi, à cette vue, ordonne le supplice du perfide archer. On amène 4 chevaux sauvages, on les fouette avec fureur. En un moment, le misérable est écartelé. Ainsi, l'ancien clerc obtint la main de l'adorable princesse. Tout le château fut en liesse. On but, on mangea avec transport. Et la princesse ne pleura plus, car elle avait celui qu'elle aimait. Polonais qui s'intitule La misère. Un laboureur très pauvre avait une fille fort jolie. Le propriétaire du village, un riche célibataire, en devint amoureux et voulut l'épouser à tout prix. Mais la jeune fille ne pouvait le souffrir et les parents ne voulaient en aucune façon consentir au mariage. Le maître, pour se venger, les tourmentait de toutes les façons, exigeait de toute espèce de corvée, les faisait bâtonner à la moindre occasion. Le laboureur finit par perdre patience et résolut de quitter le village avec toute sa famille. Dans la chaumière qu'il avait habitée jusqu'alors, on entendait sans cesse piauler je ne sais quoi derrière le poêle. Il avait bien souvent cherché ce que cela pouvait être, il avait retourné le foyer sans dessus dessous, mais il n'avait rien pu trouver. Le jour de leur départ, en enlevant leur pauvre mobilier, ils entendirent derrière le poêle un bruit de plus en plus fort, tandis qu'ils prêtaient l'oreille, crac, crac. Voici que sort du foyer une figure maigre et pâle. D'ailleurs, en somme, une assez jolie jeune fille. « Quel diable cela peut-il être ?» s'écrie le père. « Juste ciel !» s'écrie la mère et tous les enfants. « Je ne suis pas le diable !» s'écrie la frêle créature. « Je suis votre misère !»« J'ai appris que vous déménagiez. Il faut que vous m'emmeniez avec vous. » Le laboureur n'était pas bête. Il réfléchit un moment au lieu de chercher à étrangler sa misère. Elle était si fine et si leste qu'il ne lui aurait certainement rien fait. Il s'inclina profondément devant elle. « Madame, lui dit-il, puisque vous vous plaisez tant avec nous, accompagnez-nous, mais comme vous voyez, nous faisons nous-mêmes notre déménagement. Soyez assez bonne pour nous aider un peu. » La dame y consentit et voulut prendre quelques légers ustensiles. Mais le laboureur les donna aux enfants et lui dit qu'il avait oublié dans la cour un billot qu'il lui fallait aussitôt emporter. Il courut dans la cour, ouvrit le billot d'un coup de hache et pria poliment la misère de l'aider à enlever cet objet si lourd. Elle ne savait comment s'y prendre. Le laboureur lui montra la fente, elle y mit ses doigts longs et fins. L'autre, tout en feignant de l'aider, enleva brusquement sa cognée. Les doigts longs et fins restèrent pris dans le bois. Elle eut beau crier, gémir, se démener, rien n'y fit. Le laboureur rassembla à la hâte tout son mobilier, partit et se garda bien de jamais revenir en cet endroit. Il fut désormais très heureux et devint bientôt le plus riche paysan du village où il était allé s'établir. Sa fille épousa le fils d'un honnête voisin, un beau et brave garçon, tous vécurent en joie. Le seigneur de l'ancien village, l'oppresseur des misérables, eut un tout autre destin. Voulant distribuer les maisons vides à de nouveaux habitants, il vint visiter celle que notre laboureur avait habitée. Qui trouva-t-il ? Une pâle fille qui se débattait en vain les doigts pris dans un billot. Il eut pitié d'elle, enfonça un coin dans le bois et la délivra. À dater de ce jour, la pâle misère ne quitta plus son libérateur. Malgré son âge, il en devint amoureux. Pour elle, il gaspilla si bien toute sa fortune qu'il devint pauvre à son tour. Aujourd'hui, je vous ai raconté deux histoires polonaises, l'esprit du mort et la misère. Je vous souhaite une bonne et agréable fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres histoires, toujours du côté de l'Europe de l'Est. Là, on ira découvrir un conte tchèque. Pourquoi pas, hein ? Allez, ciao, bye bye, c'était Doé.